réfléchis sur l'interprétation du chapitre 12 de l'Apocalypse, le fameux 666. Ah, ça intéresse les jeux.
Anita, c'est une vieille.
Non, on est vieille alors.
Ils sont moins enthousiastes. Il y en a qui sont les vieux.
Non mais ils prennent pour qui eux là-bas?
Alors,
un peu de respect.
Si vous avez votre Bible dans la main, vous verrez que voici comment commence le chapitre. Je vis monter de la mer une autre bête. Elle avait des corps comme un dragon, et elle parlait comme un agneau, et il lui fut donné un pouvoir extraordinaire, un très grand pouvoir, au service de la première bête. Alors vous voyez, c'est la deuxième bête. Il lui fut donné la bête de la mer et la bête de la terre. Donc, vous avez la grimace de la très sainte Trinité chez Satan. Donc, voici donc une bête qui monte de la mer. Elle parle comme un agneau, donc très séduisante du point de vue de la douceur, très doucement, avec une immense délicatesse, une compassion bouleversante, une bonté sublime, mais en fait, elle parle, je veux dire, elle est au service de la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. La première bête, c'était un dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes. Après le passage de cette bête, d'où on vient de voir arriver, dans les chapitres d'après, on va retrouver le dragon face à la face. Et cette fois-ci, les têtes seront couronnées. C'est-à-dire, le passage de cette bête qui monte de la mer va permettre le gouvernement absolu mondial, n'est-ce pas, de la bête à 7 têtes, c'est-à-dire de l'athéisme au niveau idéologique, au niveau des pensées, des 7 têtes, des 7 pensées. Un dragon rouge, feu, la couleur de la colère. Un dragon, donc, une espèce de monstre extraordinaire, de machination extraordinaire, à 7 pensées pour décapiter, comme je vous disais, les 7 possibilités pour l'homme d'être contemplatif et de se situer bien dans sa peau, dans son art, dans son intelligence, dans son cœur, dans son être, et dans son environnement social, sa famille, sa communauté, dans sa patrie. Donc comment faire pour décapiter? C'est très simple, il suffit d'inverser complètement le regard qu'on pose sur chacun de ses composantes essentielles de l'homme. Opération réussie, mais seulement il faut bien sûr qu'elle soit totale. C'est ce que nous vivons en ce moment. Ah, c'est pour ça que je prends cette petite. Je vis cette bête monter, elle lui fut donné un pouvoir prodigieux, chapitre 13, autant pour moi, et un prodigieux pouvoir lui fut confié, et notamment celui de faire tomber du ciel un feu donc invisible, c'est un langage esthénien, donc un feu du ciel, c'est-à-dire un feu invisible, et par ce procédé, le terme grec est très précis, par ce procédé, cette bête conseille aux hommes de fabriquer, le terme grec est très précis aussi, fabriquer, partir d'une matière, j'usine quelque chose, de fabriquer une image au service de cette première bête dont la plaie mortelle avait été guérie, de donner animation à cette, pardon, et bien, je suis en train de vous le dire par cœur, le texte, je suis en train de vous le dire, chapitre 13, je suis en train de vous le réciter, le texte. Chapitre 13, verset 11. C'est ça? C'est le verset que vous voulez? Apocalypse. Qu'est-ce que vous voulez, ce qu'on entend? Ah, il y en a... Non, mais ça fait rien si vous ne l'avez pas, je vous le dis. Donc, je vais donner animation. Donc, voyez, un procédé extraordinaire qui permet un feu invisible et par ce moyen la fabrication d'une image de donner animation à cette image et de la faire parler. Ça a évidemment des significations extrêmement importantes du point de vue donc de la stratégie du démon pour nous tenter, c'est l'interprétation principale, mais ça a aussi une interprétation temporelle, notamment pour nous, donc accidentelle, si vous voulez, et moi j'y vois bien entendu volontiers la télévision. Allez, je fais descendre un fer invisible, les hommes fabriquent une image, donnent, et arrivent donc à donner animation à cette image, à la faire parler. Et c'est aussi en même temps la prophétie de ce que je vous ai dit, celle de grimace de futur de l'Antichrist, qui va faire ce qu'a fait la Sainte Vierge en Ukraine. Dans quelques années, nous allons voir ça. Je ne vous dis pas exactement la date, c'est pas la fête. Et où il va en effet parler et séduire toute l'humanité. Même les élus, dit l'Apocalypse, même les élus. Les élus, c'est nous. Ils seront séduits. Extraordinaire. Sauf ceux qui seront dans l'Immaculé, parce que là, l'Immaculé nous rend immaculés, bien sûr. Quand l'Immaculé, quand on se consacre et qu'on donne tout à l'Immaculé, l'Immaculé donne tout ce qu'elle a. Et donc on est immaculé. Seuls ceux qui seront dans l'Immaculé échapperont à ça. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. Le conseil de faire fabriquer une image, de donner animation à cette image, de la faire parler, et de faire en sorte que soient mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la paix. De sorte que tous puissent l'adorer, hommes et femmes, riches et pauvres, esclaves et hommes libres, puissants et hommes faibles et fragiles. Donc tous sans exception. C'est assez impressionnant, de sorte que tout cela soit marqué au front, c'est-à-dire la pensée, et sur la main, c'est-à-dire les actes. Vous voyez, une image de la télévision très extraordinaire. C'est par le moyen de des médias, si vous voulez, qu'on est imprimé complètement par les idéologies athées qui pénètrent en nous, même si je n'ai pas étudié ça, même si je ne connais pas tout ce que dit Hegel, même si je n'ai pas tout ce que dit Nietzsche ou Brunswick, ça ne fait rien. Je suis imbibé, complètement, complètement imbibé, grâce justement à l'encerclement dont Jean-Christophe m'a demandé de parler, cette espèce d'encerclement extraordinaire dont la télévision n'est qu'un des aspects, puisqu'il y a 7 aspects à l'encerclement, du moins 5 principalement. Les 5 aspects à l'encerclement, il y a bien sûr du côté des yeux, puisque vous jouez la télévision, du côté de l'odorat, du côté de l'ouïe, du côté du goût. Alors vous me reconnaissez tout de suite. J'ai pas besoin, Daniel Lanz vous a parlé suffisamment des messages subliminaux, donc inutile de vous parler des messages subliminaux, c'est l'oreille. Dans les messages subliminaux, on est complètement infesté par l'intermédiaire de la radio, des disques, par tous les messages subliminaux qui circulent dans les disques, les chansons rock and roll, c'est hard rock, mais aussi le... Par exemple, vous savez très bien que le White Album des Beatles donc, est assez impressionnant de ce côté-là, que vous passez à l'envers, vous lisez, vous entendez « I've got ». Ah non, « Turn me on, dead man ».« Turn me on, dead man ».« Number 9 ».« Number 9 ». Vous comprenez à l'envers « Turn me on, dead man », qui est une formule de consécratoire luciférienne au moment des messes noires. Ça veut dire, je m'excuse, mais je vais le traduire. Ça veut dire, ils pratiquent ça avec des crucifix, des choses horribles, n'est-ce pas? Notamment d'excitation sexuelle. Donc, Tom Leon, Deadman, c'est l'homme crucifié. Vous voyez, donc ça, c'est les Beatles. Les Beatles, à partir du moment où ils ont fait ça, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Triplé. Les Rolling Stones, c'est I've got to leave for Satan. Je me rappelle une chanson, on l'avait écoutée en l'envers, ça. À l'endroit, si vous voulez, à l'endroit où vous avez le texte normal, en anglais. Et lorsque vous l'écoutez à l'envers, comme si vous tourniez le disque en sens inverse, vous voyez, comme si je disais par exemple papa, maman, hein, si vous lisez à l'envers, c'est en ma pape. Hein, vous voyez, je lis à l'envers. Ben, quand je dis, c'est exprès, bien sûr. Donc, les messages subliminaux sont faits exprès. les disques, deuxièmement, sont consacrés à Satan, puisque maintenant, pratiquement, il y a un consortium qui regroupe l'ensemble de ces disques depuis à peu près 10 ans. Et les disques sont consacrés à Satan. Troisièmement, il y a aussi des messages subliminaux par voie d'ondes non audibles, non pas seulement par système à l'oreille, etc. Bref, du côté de la musique, ça pénètre par les oreilles et de manière subliminale, c'est-à-dire subconsciente, s'enregistre en moi des slogans sans arrêt, qui incitent au suicide, au satanisme, à la drogue, au sexe et à la violence. Alors ça, on est imbibé de ça depuis les Beatles à peu près. C'est les Beatles qui ont introduit ça. Du moins, ce n'est pas les Beatles qui ont introduit ça, mais surtout, comment s'appelle-t-il ? Notre brave. Non, bien avant lui. Non, Elvis Presley ne faisait pas de message subliminal. Il a introduit simplement le beat. Le beat voodoo. Et le beat voodoo a été repris dans tous les disques de rock. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de message subliminal dans Elvis Presley. Par contre, celui qui est venu après, qui est mort suicidé après. Non. Jimi Hendrix, non? Pardon? Non. Un type qui est mort vers les années 68-67. Très connu. Oh, connais que lui. Pardon? Non. Oui, Rolling Stones, on a aimé ça sur l'Union, bien sûr. Archi connu, on connaît que lui. Bon, peu importe.
Non,
mais
pas mort.
Bon, enfin, peu importe. Je sais que mes neveux, les fils de mes sœurs, tu leur fais écouter un disque de rock. Oui, mais. Tu leur fais écouter un disque de rock, mes petits neveux, là, qui ont 10-12 ans, ils sont capables de dire, en l'écoutant, s'il y a un message subliminal ou pas. Ça, c'est l'éducation des enfants aujourd'hui, c'est très important. Il faut qu'ils soient capables, à l'écoute d'un disque de rock, savoir s'il y a un message subliminal ou pas.
Il n'y en a pas dans tous les groupes.
Ah, comment ils font? Débrouillez-vous. C'est un autre problème. En tout cas, on est encerclé du côté de Louis. Du côté de la vue, par la télévision, cinéma, etc., tout à provacance. Nous sommes encerclés du côté de l'odorat, parce que vous savez que depuis très peu de temps, c'est plus récent déjà, c'est le point de vue des parfums. Opium. Et vous avez des parfums, comme des marques d'ailleurs de lessive, c'est très connu, Ariel, vous voyez, qui ne marche. Et on s'aperçoit en ce moment qu'au niveau international, telle ou telle marque ne se vend qu'à condition qu'on ait fait une série de messes noires à consécration à Satan de la marque. Et les mélanges qui sont faits pour faire certains parfums sont des mélanges qui sont étudier en fonction. Ah oui, absolument. Alors, donc on est coincé aussi. Et c'est là que je continue. C'est là que je continue le passage de l'Apocalypse. Et nu, et ils sont marqués sur la main, sur le front, donc la pensée et les actes, du coup.
Il lui fait trop ça sur le passage. Tu dis que la lessive, on le autant les parfums, oui. La lessive.
Ariel, c'est connu, hein.
C'est ce que j'utilise, je veux dire, c'est pas de message pour les
gens. Alors, attention, je vous expliquerai après l'influence de ces choses-là sur nous. Le fait que ça consacre à Satan, c'est une chose. Maintenant, dans quelle mesure ça va nous influencer, c'est une autre chose. Alors, la quatrième, alors on continue. De sorte que ça a mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la paix. N'est-ce pas? Et là, il y a un truc absolument extraordinaire dans le passage. C'est que paf, a quelque chose de totalement différent. Et donc je passe à quelque chose de complètement différent. Et pourtant, je passe pas à un autre chapitre, je ne mets pas un point, je passe à un autre paragraphe, pas du tout. Il y a une espèce de. En grec et en hébreu, il n'y a pas de virgule. En français, on est obligé de mettre une virgule, la phrase continue. Et, kai en grec, et, c'est-à-dire, ça veut dire c'est-à-dire. Ce et en grec, c'est kai, ça veut dire c'est-à-dire. Comme pour signifier que c'est dans le même temps que. C'est en même temps que. En même temps que la télévision et tous ces trucs, quand je ne veux pas. En même temps. Et nul ne pourra acheter ni vendre si ce n'est marqué du chiffre de la paix, ou au nombre de son nom. Et ce chiffre est un chiffre d'or, ce chiffre c'est. Que celui qui a l'esprit d'intelligence, voilà le passage le plus important, diffère le chiffre de la paix. Car ce chiffre, donc il faut avoir le don d'intelligence pour pouvoir interpréter. Que celui qui a l'esprit d'intelligence discerne le chiffre de la paix, crinate, c'est discerne. Le chiffre de la paix, ce chiffre est un chiffre d'or, ce chiffre c'est 6. Ah, voilà le passage. Alors, vous savez que cette prophétie est réalisée depuis à peu près 3 ans et demi, puisqu'on ne peut rien acheter vivant si c'est marqué le chiffre de la bête. Rien. Tout est marqué le chiffre de la bête. Ah, bah écoutez, quand même, je suis désolé, mais c'est des choses tellement élémentaires que je pensais que tout le monde le savait. C'est partout. Bon, qui est-ce qui a une bouteille de jus d'orange qui vient d'acheter là, ou une bouteille de machin là? Voilà, des viandes, de Coca-Cola, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, n'importe lequel. Apportez-moi ça ici, je vous montre. Voilà. Non, ça va, c'est bon, une me suffit, oui. Bénédiction. Alors. Vous avez sur tous les produits, depuis 3 ans et demi, un code barre. Ce code barre, sur tous les produits. Ce code barre est un code qui a été inventé par un Français absolument génial. Un très grand service à l'humanité, et je ne parle pas pour rire. Très grand service qu'il a rendu à l'humanité en inventant ce truc-là. Et lorsque vous passez ici le crayon de la caissière, elle part, elle lit 8, ça doit être le Portugal. Puis le premier chiffre, 6 lettres, bon, je présente la société de production qui a un chiffre. Et enfin, le troisième groupe de chiffres, 000-695, qui représente le produit lui-même. Pour exprimer chaque chiffre s'exprime avec 2 barres. Alors par exemple, j'ai ici 0 qui s'exprime avec une barre épaisse, barre fine, puis après 0, barre épaisse, barre fine, après 0, barre épaisse, barre fine, vous voyez? Mais alors ce qu'il y a, c'est que chaque chiffre peut s'exprimer de 2 manières différentes. Vous voyez? Par exemple ici, j'ai 0 avec barre épaisse, barre fine d'un côté, mais ici là, j'ai à côté un 0 avec barre moyennement épaisse, barre fine. Vous voyez ça? Donc j'ai 2 manières à chaque fois, pour chaque chiffre, de s'exprimer en barre. Le résultat de cette affaire, c'est quand je passe ici, je peux, sans avoir besoin de donner des étiquettes à chaque fois, à chaque variation de prix. Je peux éviter. J'ai plus besoin d'étiqueter chaque produit. Je n'ai plus besoin de faire de gestion de stock. Vous savez que les magasins perdaient un maximum d'argent. Là où ils perdaient le plus, c'est dans la gestion de stock. Stock in, stock out. Donc je fais en plus, au point de vue crédit débit, je fais au point de vue comptabilité, évidemment, des progrès spectaculaires, enfin bref, un gain de temps, un gain de personnel, un gain d'efficacité, un gain de absolument prodigieux, donc c'était absolument indispensable de faire ça. Seulement voilà, attention, a été surajouté, en plus, de manière totalement gratuite et inutile, 3 fois une double barre, une au début, une au milieu, elle descend un peu plus bas, et une à la fin. Et ceci est totalement inutile. Autant les barres, les autres barres sont très utiles, autant, les autres or. Lorsque vous verrez une double barre de ce genre à l'intérieur, il y a une explication dans Saint-Jacques de Compostelle, je crois, non ? Quand vous verrez une double barre à l'intérieur d'un chiffre qui est représenté normalement, parce qu'il représente le produit, par exemple, si j'ai ici la société à le produit en question, c'est 000695. Eh bien, je regarde comment le site est exprimé, c'est double barre. Alors, c'est toutes les barres qui sont à l'intérieur changent à chaque fois, puisque c'est pas jamais la même société. C'est pas pareil si c'est Coca-Cola ou Pepsi, ou si c'est du dentifrice, et si c'est un manche à balai. C'est pas la même société, c'est pas le même produit, donc les barres changent tout le temps, sauf double barre, double barre, double barre. En permanence, vous avez double barre, double barre, double barre. Et double barre, double barre, double barre, c'est 6, 6, 6, et ils mettent pas le chiffre en dessous, bien sûr. Alors, on s'est posé la question, moi, des informaticiens chevronnés au niveau national. Comme ça que je suis, c'est un Français qui l'a fait. Et j'avais posé la question, est-ce que c'était nécessaire, ou est-ce qu'on pouvait, est-ce que ça a été suragité ? Alors, c'est eux qui m'ont affirmé de manière absolue que c'était suragité, totalement inutile. Mais je crois qu'il est passé. Alors, or, ce chiffre, c'est un sacramental luciférien qu'on a retrouvé avec la pyramide de M. Mitterrand. La pyramide de M. Mitterrand est construite avec 666 facettes. De sorte que si vous rentrez dans la pyramide du Louvre, vous ne pouvez pas sortir sans être infesté. Sans être infesté.
Moi aussi, j'ai voulu y aller contre.
Alors, si c'est un sacramental luciférien. La pyramide du Louvre. La pyramide. Eh bien, passez par une autre entrée, vous n'avez qu'à passer par la sortie.
Non, il y en a une sur les pieds. C'est impossible.
Le bon Dieu ne peut pas avoir permis une chose pareille.
Non, désolé.
Contraire à toute la providence de Dieu. Quoi ? Alors, voilà le fait. Maintenant, explication. Ça, c'est le fait, on constate. Donc, la prophétie de l'Apocalypse est réalisée depuis 2 ou 3 ans. Nous vivons donc, vous voyez, je vous dis ça parce qu'un jour j'ai lu un document émanant de quelqu'un qui avait une apparition de la Vierge, et la Vierge disait, lisez le chapitre 13 de l'Apocalypse, regardez vos codes barres et concluez sur le temps que vous vivez. Alors du coup je me dis, qu'est-ce que c'est que l'histoire de code ? J'ai regardé, c'est là comme ça que j'ai creusé la chose.
Et comment tu expliques les doubles barres ?
J'ai regardé, c'est l'informatique.
Ah
ouais. Depuis, oui. Mais ça, c'est moi, je l'ai vu il y a 3 ans. 3 ou 4 ans. Donc, tu veux aussi tôt, dès que c'est sorti. Alors, oui, d'accord, faut parler pour les jeunes aussi. Donc, hein ? Alors, vous remarquerez que ce code barre avec 666 est imposé aussi bien à la France qu'au Portugal, comme vous le voyez, toute l'Europe. Vous le trouvez aussi en Australie, en Amérique, du Nord et du Sud, en Afrique, en Asie, en Union soviétique, partout. Donc c'est universel. Autrement dit, ça a été imposé par les puissances précisément de la bête. Parce que vous voyez, chapitre 13 montre bien que c'est la bête de la mer qui monte sur la terre. De manière universelle. Ça vous donne à comprendre par qui nous sommes gouvernés au niveau mondial. C'est la synarchie qui gouverne absolument le monde. Tu peux imposer une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que ce système ? C'est-à-dire, entre guillemets, c'est un sacramental, je ferme les guillemets, luciférien. Un sacramental, par exemple, vous voyez, je vous donne une médaille miraculeuse, je la bénis avec de l'eau bénie, tout ça. Je mets toutes les prières de l'Église. Et du coup, ça a sur vous une influence de bénédiction, de protection, de bénédiction, de réconfort, de grâce actuelle dès que vous lâchez cette fille. D'accord? D'où vient cette grâce de bénédiction? Du fait que l'Immaculée a donné cette grâce par ses mérites, par son amour, par sa charité, et que l'Église y rajoute en effet son efficacité par la bénédiction de l'Église. De sorte que vous portez ça, c'est efficace du point de vue de la bénédiction. Vous voyez, du point de vue de votre âme. Ça vous protège, ça vous emporte, vous êtes du coup plus facilement, vous déjouez plus facilement les embûches des ténèbres. Maintenant, un sacramental luciférien, c'est pareil. Je prends un signe, par exemple, vous voyez, c'est cette dent de requin que je porte sur moi, où il y a des signes comme ça, des sacramentaux vaudous, qui ont une efficacité sur la personne, ou alors, vous voyez, la petite boucle dans l'oreille. Ici, vous voyez, qui sont aussi des sacramentaux qui viennent en effet de... et qui ont une efficacité du fait que tous ces gens-là, les vaudous, les sacrés luciférien, font des messes noires, et même quelquefois des sacrifices humains. Et moi j'ai vu un corps d'une petite fille qui a été l'objet d'un sacrifice humain, tout près de mon ermitage, pas l'actuel, mais le précédent. Vous avez sûrement entendu parler, la petite Céline, à la mode du Caire, c'est un sacrifice humain. Non, mais c'est courant. Alors, donc... Alors, j'ai dit aux flics, j'ai dit, écoutez, vous êtes lamentable, il fallait regarder tous les trucs de satanisme qu'il y avait chez eux. Ah non. Eh oui, très bien. Vous êtes responsable. Donc, en donnant donc, des prières, des macérations, des incantations vis-à-vis des puissances intermédiaires, je donne pouvoir à ces signes d'être efficaces sur les personnes qui les portent. Or, la nourriture porte, et les dentifrices et compagnie, c'est pour ça que je ne me lave plus les dents avec les dentifrices. Et que vous avez remarqué, je ne me rasais jamais avec la barbe rasée. Au début du Coca-Cola, oui, je te bénis avant, parce que... Oh. Cigarette, oui. Eh oui, mais il n'y a pas de code sur la cigarette.
Si, alors,
écoutez-moi bien. Il est évident que c'est pour ça que vous devez bénir la table, puisque la bénédiction de la table, à condition de passer le signe de croix, je vous rappelle, de faire le signe de croix sur la nourriture, sur une nourriture, et toute la nourriture est bénie, pulvérise toutes les influences des sacramentaux luciferiens qu'il y a, et qui ont été imprimés dans les produits par ce code. Évidemment, il faut bénir toute la nourriture même avant, parce qu'on bénit la nourriture pour qu'elle soit bénie, que ce ne soit pas simplement une nourriture naturelle, mais qu'en plus elle soit pour nous une bénédiction. Et là maintenant, nous avons une triple raison de bénir. Oui, c'est sûr. Donc, tout ça c'est très important. Il faut aussi sur les sources d'eau, tout près de l'hermitage où je suis, il y a le lac de Serre-Ponçon, il y a un de mes amis qui était là, il a sa maison là, et puis la nuit il voyait des espèces de lampes, et puis, je demandais ce que c'était. C'est il y a 7 ans. Je demandais ce que c'était. Il a été voir, il a essayé de bien repérer où c'était. Ça se répondait comme ça à 602 km de distance. C'était autour et symétriquement par rapport au lieu où l'eau coulait. Ça faisait toute la réserve de sa pension qui allait inonder, j'allais dire, toute la vallée, les vallées adjacentes pour leur donner l'eau potable à des millions de personnes. Et donc il mettait ici, il a été voir, il a vu dans les arbres des espèces de talismans, des trucs comme ça. Et oui, c'est des... qui se concentraient sur la source. Et eux, par derrière, faisaient ensuite, dans leur vie, de n'importe où, des trucs pour donner précisément, pour fouiller, j'allais dire, consacrer cette eau à Satan. Satan n'a de pouvoir que si l'homme s'associe à lui. Or, ces hommes-là s'associent à lui.
Oui, mais pour les autres,
pour ceux qui le reçoivent. Ah ben, son influence, ah ben oui, ça ne fait rien. La preuve, c'est qu'Adam a péché et on en a les conséquences. pardon. Bah, c'est des gens qui sont... C'est des gens qui ne sont pas cinglés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, alors. Donc, vous comprenez bien. Donc, vous voyez, l'eau, que cinquième aspect, et on se disait qu'on était encerclé, complètement. Complètement encerclé. Extraordinaire. Donc, maintenant, interprétation du dispositif. Il faut savoir, si vous voulez, ces choses-là. Donc, on est encerclé du point de vue du corps. Le corps, c'est cinq sens externes. Et du point de vue de l'esprit, les sept idéologies athées. Donc les deux seuls points où nous avons gardé la santé, le péché originel a complètement perturbé la zone du cœur, la zone de la raison, la zone de nos opinions, la zone de notre sensibilité interne, de notre imaginaire, de notre psychologie, toutes ces zones, mais on n'a pas pu atteindre le corps, ni l'esprit intelligent. Alors donc, la bête de la rouge a pour fonction, avec ses sept têtes, de complètement fossiliser le point de vue du sommet et nous empêcher de vivre d'une manière contemplative dans notre corps, d'une manière contemplative dans notre âme, d'une manière contemplative, etc. C'est le point de vue de l'esprit et du point de vue du corps, on est encerclé par les cinq sens, notamment par la prodigieuse et extraordinaire efficacité de la bête de la mer qui monte jusque sur la terre. Être au service de la première bête. Alors maintenant, interprétation théologique. Qu'est-ce que c'est donc que ce
Ils l'ont fait volontairement parce qu'ils l'ont lu justement dans la Bible. Ils ont dit que c'était un signe.
Non. Ils l'ont fait parce que si, ça a toujours été. C'est vraiment le signe, c'est le symbole même de l'Antichrist. Et chez les kabbalistes et les lucifériens, c'est pas un signe négatif, c'est un signe très positif, qui exprime précisément l'homme dans ses trois dimensions et dans sa plénitude de créature spirituelle au sommet. Donc c'est un signe positif, donc ils le prennent comme symbole, l'homme coupé de Dieu, vous voyez, et c'est pas fait de cette crête, l'homme coupé de Dieu, qui est Dieu. L'homme replié sur lui-même, ayant tout pouvoir par ce phénomène de repliement sur lui-même dans les trois dimensions de l'esprit, dans les trois demeures de l'humain. Alors, tout pouvoir sur l'univers sans Dieu. C'est très positif chez eux, justement. Alors, si, maintenant, or, il faut avoir l'esprit d'intelligence pour discerner. Et c'est là que je réclame votre attention souveraine. Il faut avoir l'esprit d'intelligence pour discerner le chiffre de la bête. C'est un des dons du Saint-Esprit. Et l'esprit d'intelligence a pour fonction, comme je vous l'expliquais à propos de ma petite sœur tout à l'heure, de voir de manière actuelle qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de chacune des trois personnes divines, et notamment dans le mystère du Verbe incarné. Parce que, évidemment, le Verbe incarné est très important. Le Verbe incarné, son chiffre, c'est 8-8-8. Je vous explique rapidement. 8-8-8, pourquoi? Parce que c'était très connu chez Saint Jean, chez les Esséniens, les premiers chrétiens. Enfin, c'est un truc archi-classique, que vous savez sûrement. Quand vous prenez Jésus Christos en grec, vous faites la somme des lettres, ça fait 888. Et si vous le preniez en hébreu, Yeshua Mashiach, alors à ce moment-là, c'est la somme des lettres, ça fait 888, c'est connu comme le loup blanc que Jésus, Christ, c'est 888. Autrement dit, vous regardez et vous discernez ce que signifie ce chiffre 666 à partir du mystère intime du Verbe incarné. Or, vous voyez que l'Antéchrist, qui est l'homme divinisé, c'est le chiffre d'homme, donc c'est le chiffre de l'Antéchrist que nous allons connaître. On a dit pour, hein, parce que les générations de chrétiens qui auraient voulu vivre ce que nous vivons, ils n'ont pas vécu. Extraordinaire. Et donc, 8, c'est Christ, c'est le Christ. Il veut être le nouveau Christ, le nouveau Bouddha, le nouveau Rédempteur, roi de l'univers, roi de paix, etc. Il supprime toute souffrance. La nouvelle incarnation, la réincarnation du Christ. Extraordinaire. Mais ce n'est pas le Christ. C'est le christisme anti-chrétien. Et c'est Saint Jean Bosco qui interprète de la manière suivante. Les saints ne sont pas du tout idiots. Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, c'est un visionnaire extraordinaire. Malheureusement, il y a très peu de livres là-dessus, il n'y en a même pratiquement pas, sur les prophéties de Saint Jean Bosco qui sont absolument extraordinaires. De ce que nous vivons aujourd'hui. On va toujours dire que Saint Jean Bosco, il manquera, et il a toujours manqué, de. C'est pour ça que Michel-Ange a fait une basilique avec une nef de 222 mètres. C'est ce qui manque à l'Antéchrist. C'est l'église. De pierre, un parc de pierre qui manque. Et plus précisément, il manque le fait. Il manque deux à l'Antéchrist, et c'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Nous le reconnaîtrons grâce à l'esprit d'intelligence. Parce qu'il lui manque deux. C'est quoi deux? C'est qu'il n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. Premier deux. Il n'a pas les deux natures humaines et divines en une seule personne. Il n'est pas le deuxième Adam. Ah, vous allez me dire, on va m'antiquer, on va dire, s'il n'est pas le deuxième Adam, je ne vais pas le voir comme ça du coin du coup d'œil. Hein? Troisièmement, donc, il est le deuxième Adam, il reprend toute l'humanité et il devient le nouveau père de toute l'humanité. Et ceci par la croix. Il recrée tout. La recréation, c'est le nouveau créateur, c'est le rédempteur, et c'est le deuxième Adam. Vous voyez, vous avez donc les trois deux qui sont là. Dès que je vis du Christ, dès que je connais Jésus, je rentre dans son âme, dans sa contemplation, et je vois qu'il y a ces trois choses. Hein, quand je communie l'Eucharistie, je plonge à l'intérieur du cœur eucharistique de Jésus pour vivre de ces trois choses. Et c'est là que Saint Jean Bosco dit ceci. Ça, c'est le point de vue, j'allais dire, contemplatif. Et maintenant, si vous voulez savoir le point de vue pratique, pour reconnaître immédiatement l'Antéchrist, eh bien, c'est tout ça. Prenons par exemple le deuxième 2, l'incarnation, c'est ce qui est le plus facile. Le Christ est incarné. Et l'Eucharistie, transsubstantiation de l'Eucharistie, représente l'incarnation, puisque toute la divinité du Christ se réincarne dans la substance par la transsubstantiation. Et il se passe effectivement la véritable réincarnation, c'est bien cela, c'est les sacrements, tous les sacrements. Et de manière absolue, l'Eucharistie renouvelle l'incarnation à chaque fois. Donc l'Antichrist rejettera le point de vue de l'adoration du Saint-Sacrement et de la présence réelle. Il acceptera bien sûr l'Eucharistie comme partage, comme le corps du Christ que nous mangeons, que nous partageons dans un repas, une assemblée, etc. Mais l'adoration du Saint-Sacrement et se balader avec Jésus en l'adorant, c'est aberrant. Donc, rejet de l'adoration eucharistique, le rejet sur le fait que, et puis en même temps, positivement, bien sûr, puisqu'il n'y a pas, on rejette cette réincarnation, et qu'il est vital pour l'intelligence d'avoir un ersatz de ce point de vue-là, et bien sûr, ce sera un réincarnationniste à fond, c'est évident, je vous en ai déjà parlé. Ouais, c'est donc très facile à reconnaître de ce côté. La réincarnation, c'est la grimace des sacrements. C'est pour échapper aux sacrements. Le deuxième aspect du 2, donc là c'est facile, la première blancheur c'est Jésus aussi. Deuxième blancheur, lumière née de la lumière, cette lumière absolument infaillie, puisque quand le Verbe émane du Père, on ne peut pas dire qu'il soit envers ça, il est Dieu et tout seul, c'est infaillible. La vérité est tout entière en lui, et le Christ a voulu donner cette toute sa lumière à l'église de Jésus, à l'église de Pierre, parce que, et ça s'appelle l'infaillibilité pontificale, puisque à travers précisément celui qui, lui, qui est le Père de l'église, Jésus sur la croix, donne à Saint-Pierre d'être le Fils du Christ, et donc d'être le garant, parce qu'il s'agit de tout ce qui est proclamé du point de vue des mystères de la foi, l'infaillibilité. Pas sur les autres. Bon, Jean n'a aucune infaillibilité sur le. Parce qu'il déclare que. Oh ma chérie, tu es moche, ou ma chérie, tu es jolie. Non, parce qu'il avait pas de maîtresse. Là, il n'est pas infaillible. Mais, heureusement qu'il y a eu le pape Borgia, je vous signale, il a fait échapper à l'église à trois hérésies. Et si ça n'avait pas été le mec, un type comme Borgia, je crois que l'église aurait échappé. Ça aurait coûté très cher à l'église. Justement. Heureusement que Borgia était Borgia, du point de vue de la défense dogmatique des mystères surnaturels. C'est là qu'est l'infaillibilité. Donc refus de l'infaillibilité pontificale et du pape, l'antéchrist, bien sûr, à un moment donné, voyez comment le pape a été massacré au monde de la joie, voyez, du point de vue médiatique, c'était effrayant. Là, on a assisté à ça. C'est invraisemblable que 700 000 jeunes se déplacent et qu'on massacre le pape comme ça. C'est un vrai semblable. Ouais. Dans les masses médias, dans les machins. Et il le savait en arrivant, hein. Il le savait en arrivant. C'est pour ça qu'il était triste en arrivant. Hein. Non, sur place, c'était pas du médiatique. C'était scénique, tout ça. Ouais, scénique. À chaque fois qu'il parlait, c'était inaudible. Et quand les autres parlaient, c'était parfaitement audible. On a vécu d'un peu toute la soirée, etc. De manière que quand ils sont revenus, ils ont réussi leur coup. Personne n'a pas dépassé. Ils faisaient autre chose. Alors ils ont se concentré sur ça. Ils ont parfaitement réussi leur coup. Ils se sont moqués d'eux. Ça, c'est vrai. Bon, enfin, ça, on a assisté à ça, mais dans les masses médias, les théologiens, tout ça. Mais toujours relativiser le mystère de l'infaillibilité pontificale, le mettre un peu de côté. Vous voyez, deuxième blancheur, le pape. Troisième blancheur, d'après Saint Jean Bosco avait eu ça à la suite d'une vision, la fameuse barque de Saint-Pierre, qui était pris dans une tempête invraisemblable dans sa vision. Vous connaissez par cœur cette vision de Saint Jean Bosco. C'est pas possible, mais vous sortez d'où, oui.
Ah, c'est vrai.
Non. J'ai pas fait ça, oui. C'est pas besoin de faire 7 ans de théologie.
Mais nous, on fait partie de la génération qui n'a pas été catéchisée.
On n'a pas été catéchisée.
Bon, je termine par le troisième 2. Le troisième 2, c'est qu'il est deuxième Adam et le recréateur de tout. Oui, sur la croix. Alors là, deuxième Adam. Alors là, vous allez avoir encore 2 ou 3 critères de reconnaissance de l'antéchrist, c'est que le deuxième Adam, Adam c'est Ish en hébreu, là en Genèse, et à Ève c'est Isha. Donc c'est relatif à Ève. Donc vous voyez, la nouvelle Ève sera très très fortement relativisée, il faut étouffer un peu le point de vue de la mariolatrie, c'est pas cette espèce de superstition mariale invraisemblable. La nouvelle Ève, oui, donc oui, la troisième blancheur, c'est Marie, bien sûr. Donc les trois blancheurs, d'après Saint Jean Bosco, c'est Jésus aussi, qu'on adore dans le Saint-Sacrement de l'autel, indépendamment du repas. C'est pas le repas qui fait l'Eucharistie, c'est la présence substantielle. L'infaillibilité du pape, qui est le garant, j'allais dire, de l'auto régénération et de la subsistance de l'humanité sur cette terre. Le jour où l'infaillibilité du pape est décapité, la subsistance de l'humanité est terminée. que la subsistance se regarde toujours du point de vue de la forme, pour les philosophes. Et le troisième blancheur, c'est bien sûr Marie, l'Immaculée. Donc, relativiser le mystère de l'Immaculée Conception, et tous les théologiens français, ça je peux vous le dire, considèrent que les trois derniers dogmes, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, l'Assomption, sont des mini-dogmes. Et il faut les relativiser, les mettre de plus entre parenthèses, tous les théologiens français. Notamment ceux les plus connus, n'est-ce pas ? Je ne citerai personne, parce qu'ils sont encore vivants. Et ils irradient les communautés les plus proches de ceux qui sont en cela. Pardon ? Non. Tant qu'ils sont encore vivants, vous permettez, moi je ne l'explique pas. C'est à vous de les reconnaître. Vous les reconnaissez à ce qu'ils disent. Le deuxième aspect, c'est qu'il est le recréateur, donc le nouvel Adam, c'est le recréateur et le rédempteur, et il sauve, il sanctifie, il rachète, il emporte dans la lumière et dans l'amour par la croix. Le refus de la croix. Le refus de la croix est un phénomène moderne. La peur de la souffrance, ça s'explique. Mais le refus de la croix, c'est dégueulasse. Évidemment qu'on ne va pas courir derrière la souffrance, c'est ça du masochisme. Pas drôle du tout, la croix. Mais quand elle est là, la souffrance, je la prends, je me précipite sur elle, et je m'en nourris. Je n'essaie pas de la rejeter. J'ai une blessure profonde, parce que moi j'ai échoué au plan de l'amour, j'ai échoué au point de vue de mes examens, j'ai échoué... J'ai raté complètement le pèlerinage, j'avais mis toutes mes piles, le pèlerinage est raté. Le père Patrick a tout foutu en l'air, il voulait aller à Garabanda. Il nous a tout cassé. Et c'est pas foutu, parce qu'en plus on était obligé d'y aller à la fin. Il a tout prévu. Et il nous a tout foutu en l'air, c'est ballot, l'échec, vous voyez. Alors, très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouillonner comme un volcan. Hein. Et s'il bouillonne comme un volcan, je vais justement souffrir, si vous voulez, et puis essayer de me débarrasser le plus possible de ça, en mettant la faute sur les autres. C'est de la faute du père Patrick, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de ceux-là. Ils n'ont pas fait assez chorus avec moi pour dire un péché, etc. Et donc, je vais faire comme Freud, je vais vite précipiter la faute, culpabiliser sur autrui. Tandis que si je prends la souffrance telle qu'elle est, je l'assume et j'en prends comme nourriture pour l'offrir, ça devient rédemption. Ça devient une rédemption. Parce que l'amour est plus fort que la souffrance. Et la souffrance, si vous voulez, est une nourriture pour permettre à notre amour d'être plus profond et d'avoir un élan plus virginal. Ce que je disais hier, la virginité du cœur qui donne cette fraîcheur, cet élan dans l'amour, vient de ce que l'amour se nourrit de la souffrance. Évidemment, il ne court pas derrière la souffrance, mais plus on aime, plus on devient vulnérable. Et donc, ce refus de la souffrance et de la croix, en réalité, c'est un refus de l'amour. Parce que l'amour et la mort sont une seule chose. Et c'est pour ça qu'il aura un pouvoir fabuleux par le système de la... la pénétration dans les puissances intermédiaires pour revivre cette soi-disant vie antérieure, pour qu'on soit guéri, qu'on n'ait plus de problèmes, pour des guérisons physiques, il ressuscitera même des morts, ça. Unité de toutes les religions, suppression de toute intolérance, paix universelle, il réussira parfaitement bien. Voilà, aimez-vous les uns les autres, ça y est, il séduira même les élus. On supprime toutes les croix. Au détriment de la vérité. C'est pour ça que le Père a dit, c'est un Père a dit, la vérité. 53 fois dans son discours.
Non,
à peu près.
22 fois.
22 fois. Au détriment de la vérité, c'est-à-dire au détriment de ce que le Christ est en personne. Donc c'est le Christ apparemment, mais c'est pas le Christ dans son fond. Dans son fond, il est la vérité substantielle de Dieu. C'est le Verbe. Dans le sein du Père. Donc, il s'agit de magnifier le Christ dans son apparence et de le détruire dans son intériorité. Alors que dans la première crucifixion, on avait détruit le Christ dans son apparence, mais on n'avait pas pu l'atteindre dans son... dans ce qu'il portait. Parce que là, l'Antéchrist va œuvrer pour crucifier, j'allais dire, Jésus dans toute sa... son aspect d'intimité, de vérité. En fait. Vous voyez ça? Et c'est pour ça qu'il est si capital d'écarter l'Eucharistie, d'écarter l'Immaculée, d'écarter l'infaillibilité de l'Église, qui est pourtant tellement écrite dans l'Écriture, de manière tellement explicite dans l'Écriture. Dans la bouche de Jésus, il y a 12 phrases pour montrer l'infaillibilité de Saint-Pierre et de l'Église. Ces 12 phrases se trouvent d'ailleurs sous le frontispice de l'église de Saint-Pierre, qui fait tout le tour des murs de Saint-Pierre. Alors vous voyez, 220 mètres de, 222 mètres de long, vous voyez le nombre de phrases partout. Donc vous voyez, c'est quand même vachement important. Donc si vous voulez, pourquoi? Donc il faut avoir l'esprit d'intelligence pour connaître le substantif. Ça veut dire que si vous voulez vous dégager complètement de l'influence de l'Antéchrist, il suffit que vous mettiez toutes vos billes sur les trois blancheurs. Et tout le reste, vous laissez tomber. Vous laissez tomber tout le reste. Ah, ce qui est important, c'est l'évangélisation dans les rues et tout. Il faut parler aux musulmans pour y aller chez eux. Les musulmans, ils ont besoin d'être convertis, etc. C'est ça qu'il faut. Non, c'est l'Eucharistie. C'est ce que dit Saint-Père. Et c'est l'Immaculée.
Et quand Saint-Père réunit tous les représentants des différentes églises, comme il l'a fait il y a 2 ou 3 ans, c'est bien ça, à Assise. Alors c'est quoi ça?
Alors, vous comprenez que le Saint-Père connaît toutes ces choses-là? Lui. Il est au courant, mais il a lu les journaux. Donc, pas de problème. Et la vie des saints, pour qu'on puisse dire ce que Saint-Jean Bosco a raconté à peu près. Bon.
Oui,
ah, c'est pour ça qu'il a fait la réunion d'Assise. Tout ce qu'il fait, il coupe l'air sous les pieds de l'Antéchrist.
Devant.
Il devance. Exactement comme avait la Sainte Vierge avec la télévision en Ukraine. Elle le fait avant. Mais. L'Antéchrist, lui, ne peut que grimacer ce qui a été fait. Et le fait, il a toujours une attitude anti. Le dragon est face à la femme pour dévorer l'enfant qu'elle va enfanter. Donc, il a une attitude toujours anti. Alors, ce que Saint-Père fait, justement, pour cette espèce d'œcuménisme au plan philosophique, au plan humanité, de tous ceux qui cherchent Dieu, hein, l'Antéchrist va vouloir le faire et le placer au plan dogmatique pour détruire tous les dogmes et donc toutes les religions et faire que la seule religion ce sera celle qui considère qu'il est le nouveau Bouddha, le nouveau Christ, le nouveau machin. Dans le message de la Salette, il est parlé abondamment de l'Antéchrist. Le message de la Salette, ça fait quand même à peu près 152 ans, 153 même. 1846, remarquez bien. C'est pour ça que je considère que l'année 89 est capitale. Parce que nous sommes la 153e année après le message de la Salette. C'est une date pivot. 153, vous savez que c'est un chiffre absolument capital pour l'Église. Les 153 passants de la barque de Saint-Pierre à la résurrection. Et Saint-Augustin a fait des développements considérables là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a 153 psaumes, 150 dans l'Ancien Testament, et les 3 psaumes que nous reprenons à l'aude de Benedictus, avec le Magnificat, et compris Nunc dimittis maintenant, tu peux laisser s'en aller ton serviteur. 153 psaumes en tout. C'est pour ça aussi, on a fait parler des pistis, je sais pas quoi, machin, les pistologues, non, les pistes. Les poissons, piscous, oui, les piscous. Les spécialistes des poissons ont regardé dans le lac de Tibériade. Dans le lac de Tibériade, ils se sont aperçus, ils ont compté le nombre d'espèces de poissons qu'il y avait. Il y a 153 espèces de poissons dans le lac de Tibériade. Vous vous rappelez que si vous avez été dans le lac de Tibériade, et quand vous mettez vos pieds dans le lac de Tibériade, vous avez l'impression qu'il n'y a que des poissons. Ah, moi je m'en rappelle, c'est extraordinaire justement la tapka. On met les pieds là-dedans, vous vous rapprochez. Quand il y a seulement ça d'eau, si ça grouille de petits poissons comme ça, vous vous approchez un peu plus loin. Ça grouille de poissons un peu plus gros, il y avait que des poissons. Vous calculez le nombre d'espèces de poissons, 153 poissons, c'est génial. Il y a 153 chapitres entre la Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. La Torah. 153 fois. Il y a 153 fois le nom de Yahweh dans le Lévitique ou la Genèse. 153, vous trouvez tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois passer de la connaissance du Dieu unique par l'adoration à la connaissance de Dieu dans son intimité et connaître les trois personnes distinctement en passant par la grâce sanctifiante. C'est-à-dire par l'Eucharistie vécue comme Marie l'a vécue dans l'église de Pierre. C'est ça que ça veut dire, ça. Alors, c'est génial ces chiffres, tout ça, des trucs-là, parce que ça vous met la structure principale pour éviter de perdre du temps. Pour éviter de perdre du temps. Arrière. Et donc, vous mettez toutes vos billes. Ah non, ce qui compte, c'est de mettre toutes mes billes pour, à quel point on peut faire du temps. Mais pour essayer justement de faire une attesse telle que je puisse trouver avoir le pouvoir, d'avoir le charisme de guérison. Oh, Jésus. Guéris-la, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai confiance totale, Seigneur. Tu as guéri en ce moment, amen. Alléluia. Non, ne perds pas ton temps à ça. Ça sert à rien.
Les trois derniers dogmes, tu dis que dans l'église même.
Ah, dans l'église théologien catholique français. On veut supprimer ces trois dogmes.
Les théologiens allemands là qui ont fait la déclaration de Cologne.
La fameuse déclaration de théologie allemand et européen, c'est aussi exactement la même chose.
Ils ne sont pas d'accord avec le pape
parce que l'Antichrist s'infiltre jusque dans l'Église par des voies initiatiques. L'Antichrist s'infiltre actuellement dans l'Église par les voies initiatiques. Ce que le pape Paul VI avait dit, les fumées de Satan ont pénétré dans l'Église 1972. Lorsque c'est la désobéissance et de l'orgueil. Est-ce que c'est un rapport avec le schisme de Mgr Lefebvre? Ben bien sûr, parce que Mgr Lefebvre il voit ça et il dit qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'église de c'est plus, c'est pas possible que ce soit le pape, parce que si c'était vraiment le pape il réagirait violemment. Or il réagit pas violemment. Donc, c'est sûrement pas le pape. Alors, il commence à croire à des apparitions diaboliques comme Bayside aux États-Unis, etc. Qui affirment, qui sont complètement débiles, qui affirment que Paul VI, à partir de 1972, a été remplacé par un sosie.
Ils sont complètement cinglés.
Enfin, pas mal quand certains adeptes. On considère qu'il y a plusieurs formules pour expliquer que le siège pontifical est vacant. Parce que il y a eu une espèce d'emprisonnement de Paul VI à partir de 1972, qui a vécu un véritable enfer, ce qui est vrai. Et à partir de ce moment-là, tous les cardinaux qui ont été nommés par Paul VI n'ont pas été nommés par Paul VI, mais par son espèce de sosie, ce qui est vrai. On ne se rend pas, c'est pas parce que c'est pas par sosie, puisque mais sinon, au moins par les gens du Vatican qui ne voient pas le pape. Et donc tous les cardinaux, or le consistoire qui a élu Jean-Paul Ier avait donc une majorité de gens qui ne venaient pas, qui n'avaient pas été fait cardinaux par le pape. Donc le consistoire de Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, a fortiori, était évidemment totalement invalide, donc le siège est vacant. Voilà la.
Mais toi, t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il a tort, quoi.
Complètement.
Mais enfin.
C'est possible qu'on laisse élire des cardinaux.
Pardon? Bien sûr.
C'est sûr, c'est vrai?
Bien sûr. Est-ce que Jean-Paul Ier a été assassiné? Bien sûr. Ben,
et pourquoi alors?
Est-ce que Jean-Paul Ier a été assassiné? Ben oui, bien sûr, moi ça me paraît évident. Lorsque j'ai été à l'anniversaire du père Finet à Châteauneuf-de-Cadore, c'était je crois son 60e anniversaire de sacerdoce ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est le 60e anniversaire. Ça devait être il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans. Hein? Oui, oui, c'est ça. Alors, je me suis fait raccompagner, je ne sais pas pourquoi j'allais à Paris, donc dans la voiture, j'étais raccompagné par un certain père de Malmagne, Jean de Malmagne, ancien camarade d'HEC, mais il est mort depuis, il avait 80 ans lui aussi. Et père de Malmagne m'a dit qu'il avait vu le père Finet quelques années après la chose de Jean-Paul Ier, et que le père Finet, bouleversé, lui avait confié ce que Marx lui avait dit à propos de la mort de Jean-Paul Ier. Alors bon, ben, vous gardez pour vous, hein, c'est quand même. Ad intra, je vais continuer. C'est pour vous. Oui, il a été assassiné. Étouffé sous un oreiller.
Et pourquoi? Et par qui? Parce qu'il a été nommé pour être assassiné après, sinon il en aurait choisi un autre.
Et parce que, d'après Marc Robin, l'Église vit le mystère du Christ dans toute son ampleur. Jésus, c'est le prophète par excellence, donc les 33-36 années cursives de sa vie structurent la vie du corps mystique du Christ, qui est l'Église. Et de même que Jésus, il y avait les massacres des saints innocents au départ, etc. Il y a eu les persécutions de l'Église des trois premiers siècles. De même, il y a eu le temps des prières de l'Église, de l'approfondissement de l'Écriture, de la même manière, il y a eu les périodes de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans, avant son entrée dans la synagogue, etc., etc., etc. Et Marthe disait, expliquait bien que, au fond, l'Église, eh bien, elle est en train de rentrer dans le temps du sépulcre. Alors, elle est rentrée dans le temps du sépulcre. Actuellement, l'Église est en train de rentrer dans le temps du sépulcre. C'est-à-dire de l'ouverture du cœur. Et l'assassinat de Jean-Paul Ier, bon, marque bien, justement, après ces 33 jours, le moment de la mort, la mise à mort. Au bout de 33 jours pontificats, le moment de la mort. Paul VI représente parfaitement le chemin de croix. Moi, j'ai vu Paul VI de mes yeux. Je vous assure que j'ai vu, j'ai eu une vision intellectuelle, et je suis sûr que je n'étais pas le seul. Où on voyait toute la croix qui écrasait Paul VI littéralement au sol. Et il pleurait. C'était au moment 75, au moment de la Pentecôte charismatique de 75. Pourtant, tout le monde était archi joyeux. Et lui était là, au milieu de ces espèces de déclenchements de joie. Cette folie furieuse d'allégresse. Et lui était là, écrasé. Et il pleurait. Il n'a pas donné d'aval. Oui, on n'a pas donné d'aval. Non, alors qu'à tout. On va passer rapidement là-dessus, si vous voulez. Non, c'est les mécanismes du Vatican, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas aberrant, c'est comme ça. Écoute, parce que Jésus, à Judas, il lui dit va. Ce que tu vas faire, fais-le vite. Il lui dit pas, encore dehors. Je peux te voir. Dis, ce que tu vas faire, fais-le vite. C'est une volonté de Dieu. Que le Christ, si tu veux, soit abandonné par les 10 apôtres, trahi par Judas. C'est une volonté du Père. Et de même pour l'Église, bah, c'est une volonté du Père, mais c'est possible. Une volonté du Père.
C'est dur à comprendre.
Ah, bah, si, c'est la croix.
Bah, tu comprends par la foi, parce que tu sais que en Dieu, l'amour et la mort sont une seule chose. Donc c'est une volonté, si tu veux, que la kénose du Christ aille jusqu'au bout, l'anéantissement du Christ aille jusqu'au bout, jusqu'à l'infini d'anéantissement, de manière que c'est à partir de cet anéantissement que tout soit repoussé. Donc il fallait jusqu'au bout de la dérédiction, pour que la mort de Jésus soit une mort d'amour qui reprenne, récapitulée, absolument tout ce qui a été atteint par les conséquences du péché. Et donc il fallait que ça trahisse par ceux qui avaient choisi, ceux qui préféraient. Judas était le seul qui l'a embrassé sur la bouche. Il a fait le lavement des pieds d'après l'évangile selon Saint Jean, c'est net, c'est à cause de Judas. C'est le seul à qui il a exprimé de l'amitié, de l'amour, de la tendresse dans l'Écriture. À Saint Pierre qui était généreux avec lui, etc., il dit arrière Satan. Judas était une gentillesse, une bonté, une tendresse, il confiait tout. Saint Jean, il le préférait. Saint Thomas dit qu'il préférait Saint Jean parce qu'il était plus jeune et plus intelligent. C'est ce que dit Saint Père, oui. Il dit, je dois être intelligent. C'est l'intelligence qui va faire qu'on sera fidèle. Le seul qui est resté fidèle, c'est à cause de quoi? De sa jeunesse. Et à cause du fait qu'il a compris que c'est par l'intelligence qu'il peut rester debout dans les entrailles de l'Immaculée qui, elle, reste debout dans le cœur du Christ qui lui-même reste debout et sort dans le sein du Père. C'est quand même génial. Vous voyez? Alors le Père Malman disait, ben voilà, Marthe, je ne sais pas si c'est vrai, parce que donc, ça a été Marthe, Père Finet, Père de Balman, moi, n'est-ce pas? Il y a peut-être eu un téléphone arabe entre deux, tu vois, je sais pas. J'affirme pas que c'est Marthe, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'autre intermédiaire. Et donc, voilà ce qu'il m'a dit, donc c'est peut-être faux, mais on sait jamais. Père Balman, peut-être, pouvait être gâteuse, ouais, alors pas bien comme... Père Finet est déjà gâteuse, alors. Donc, et moi, j'exagère toujours, donc vous voyez... C'est... Donc alors... Alors, voyez, bon... Donc c'est pour ça, ne racontez pas ça comme une vérité d'évangile, mais je dis ça justement pour que vous ne le disiez pas. Alors, sinon on va vous rigoler au nez. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé. Marthe, elle a vu, parce que c'est que Marthe voyait toutes ces choses-là comme si elle y était. Et donc il serait rentré, on lui avait donné la clé des appartements pontificaux. C'est un prêtre. Et commandité par la loge de Fribourg en Allemagne, qui est une des loges les plus virulentes, maçonniques les plus virulentes d'Allemagne. Et Freiburg en Allemagne. Et donc il s'est introduit, et il est rentré la nuit, et je crois qu'il lisait l'imitation de Jésus-Christ, je crois. Il s'est introduit, il a tout simplement étouffé sous un oreiller. Et puis il est reparti tranquillement à l'hôtel à Rome, où l'attendait sa compagne, qui est une membre active, bien sûr, militante de la loge de Freiburg. Ils ont dormi là à l'hôtel tranquillement. Et Marc était là dans l'appartement quand ils se sont réveillés le matin, que les radios ont annoncé que le pape était trouvé mort. Donc là-bas, c'était gagné. Mais bon, ben, ça va, il est mort, en tout cas. Ils ont sablé le champagne. Ils ont tapé champagne pendant que la radio disait c'est affreux, elle parle pas, elle mange pas, etc. Parce que c'était quand même éprouvant, parce que c'était quand même. On avait vu la mort de Paul VI, ils nous avaient complètement scié. Puis d'un seul coup, un mois après, tac, la mort de Jean-Paul Ier qui nous avait quand même un peu. Alors, c'était fou, hein? C'était fou. Alors Marthe disait ceci, c'est qu'à un moment, donc de la coupe, de mes champagnes, etc., Et la bonne femme lui a dit, écoute, va fermer la radio, maintenant ça va, c'est bon, ça vous a sourdi ce truc-là. Le prêtre est allé fermer la radio, pour l'instant elle a mis je sais pas quoi dans son champagne, et ils ont trinqué, et a vu qui est là. Elle avait pour charge de commanditer, il devait être certainement pris par la fille, je suppose. Il a exécuté le pape et il est mort le lendemain matin.
Elle a vu, quoi.
Voilà ce qu'on m'a raconté. Mais oui, c'est une. Mais ça paye pas, ça paye pas de servir le démon parce que. C'est pas juteux, du tout, du tout.
Dans cette continuité, l'élection de Jean-Paul II, comment ça se.
Ah ben, allez, Jean-Paul II a été élu. Et Jean-Paul II représente cette fameuse phrase n'ayez pas peur. Il a commencé la phrase de son arrivée, c'est de dire « N'ayez pas peur ». La confiance en Marie dans les temps difficiles, le mystère du sépulcre, c'est la confiance en Marie dans les temps difficiles. Donc « N'ayez pas peur » et « N'ayez pas peur », c'est la phrase qu'on donne dans toutes les liturgies depuis les premiers chrétiens, comme étant la phrase que les anges, toutes les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges, proclamaient en avant du Christ avec les trompettes lorsqu'il descendait aux enfers pour proclamer n'ayez plus peur, n'ayez pas peur, le Christ arrivera avec sa victoire et il vous dégage de la Hadès, il vous dégage de l'enfer, il vous dégage des enfers, pardon. C'est comme ça que le Christ, quand il est descendu aux enfers, a emporté à ce moment-là, dans sa révélation, il s'est montré tel qu'il était, tous ceux qui avaient la foi, qui avaient eu la foi dans leur vie terrestre depuis Adam, à l'état implicite, bien sûr, à l'état implicite, ont reconnu le Christ, un peu comme mon Tibétain, puisqu'ils avaient la foi, et donc ils ont été emportés immédiatement au ciel avec le Christ. Il était dans un état de résurrection en son âme. Et la grande phrase, le grand slogan des anges, d'après toute la liturgie chrétienne, c'est de dire n'ayez pas peur, ouvrez grand vos portes au Christ. Et c'est ce que le Saint-Père prie pour son pontificat, parce qu'il sait très bien qu'il représente précisément le temps du sépulcre. C'est assez impressionnant. Il y a plusieurs actes assez caractéristiques de son pontificat qui montrent que c'est un petit peu ça. Et le pape suivant, ce sera celui de la résurrection de l'Église.
Et est-ce que le schisme de Mgr Lefebvre est vraiment un signe également de...
Parce qu'à un moment, le pape doit disparaître,
de miner l'Église à l'intérieur aussi.
Oui, parce qu'à la résurrection, à un moment, il est disparu.
Oui.
Parce qu'il est parti. Plus de pape. Son beau vie. On va vivre ça.
Est-ce que le schisme de Mgr Lefebvre s'inscrit aussi dans cet ordre-là?
Le schisme de Mgr Lefebvre, c'est assez difficile à interpréter. Est-ce que ça représente Judas? Est-ce que ça représente Saint-Pierre qui décide de tirer le clair et tailler, empêcher absolument la chose de se faire, la crucifixion, la rédemption du monde par l'immolation de l'Église de se faire? Est-ce que ça représente un des autres apôtres? Certainement peut-être Saint-Jacques, justement. C'est très difficile de savoir. Parce que Saint-Jacques, c'est un fils du tonnerre. Intransigeant et très traditionnaliste. C'était l'apôtre traditionnaliste. Archi-traditionnaliste. Tu le vois dans les actes des apôtres. Alors, est-ce que c'est ça? Mais seulement, il n'est plus là. Il a quitté. Le seul qui n'est pas quitté, vous n'avez qu'à regarder dans les églises, ceux qui continuent la vie de Jésus Eucharistie. Vous n'avez qu'à regarder, vous verrez. C'est ceux qui vivent de l'Immaculé. Tous les autres tombent. Tous, sans exception. Alors ça, c'est une netteté. Tous les autres sont Ils ne sont pas méchants, vous savez, les évêques en question. Mais comme les apôtres, c'est quand même des saints. Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Thomas, Saint-Thomas, c'est des saints. C'est des saints. Mais, voilà, c'est la lâcheté, c'est la débanda. Ils n'osent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas auprès de Marie. Alors ils disent, mais peut-être faire un compromis, il faut essayer de voir. C'est pas gentil, c'est pas méchant. C'est... Comme ils ne sont pas tout, mis toute leur vie avec l'Immaculée, ils s'en foutent. C'est la lâcheté. Vous voyez? C'est très intéressant ce que disait Marthe là-dessus, qu'on rentre dans le temps du sépulcre, parce que c'est éclairant, hein, sur ce que l'Église vit aujourd'hui. Très, très éclairant. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, voyez comment il faut vous munissiez de munitions particulièrement efficaces, l'eau bénite, contre toutes les espèces de sacramentaux lucifériens, le code barre, les machins, l'encens, vous mettez de l'encens dans votre maison. Ah, l'encens béni, je vous assure que ça se dégage pas mal de terre. Mais enfin, surtout, l'Eucharistie, l'Immaculé et le Pape. Docteur de l'Église.